Europe 1, le 22-22-30, Julien Pierce.
Bonsoir et bienvenue sur Europe 1, c'est le journal de la nuit, tout ce qui s'est passé aujourd'hui et tout ce qui se passera demain. C'est parti pour 30 minutes d'info. Il est 22h, vous êtes sur Europe 1.
À Dunkerque et dans la communauté de communes des Hauts-de-Flandre, un confinement sera désormais adapté le week-end, dès ce week-end.
Après les Alpes-Maritimes, Dunkerque va à son tour être mis sous cloche du vendredi soir au lundi matin, conséquence d'une situation alarmante selon Olivier Véran. Un confinement localisé qui pourrait en appeler d'autres, une dizaine de départements inquiètent le gouvernement. Le Premier ministre va s'exprimer demain soir alors que les contaminations explosent dans le pays. 31 500 nouveaux cas ces dernières 24 heures, du jamais vu depuis novembre. C'est une étape importante. À partir de demain, les médecins généralistes vont enfin pouvoir vacciner, même si pour l'heure, les doses sont comptées. Le choc des bagarres mortelles de l'Essonne, deux adolescents de 14 ans poignardés à mort et des enquêtes qui progressent, nous ferons le point avec notre spécialiste police-justice. Justice également à Marseille, 12 supporters de l'OM viennent d'être condamnés pour avoir mis à sac le centre d'entraînement de leur club. Dans ce journal également, la SNCF dans le rouge vif en raison de la pandémie, 3 milliards d'euros de pertes l'an dernier, un verdict historique en Allemagne. Un ex-agent syrien condamné à 4 ans et demi de prison pour les atrocités commises par le régime de Bachar el-Assad. Et puis un tableau inédit de Van Gogh, bientôt aux enchères. Scène de rue à Montmartre, estimation entre 5 et 8 millions d'euros. La météo, elle sera toujours agréable demain, même s'il y aura quelques pluies dans l'ouest et une très légère baisse des températures, nous dira Anissa Haddadi. La Bourse de Paris, elle a clôturé ce soir en hausse, plus 0,31% à 5 797 points. Et tous les détails à venir avec Claire Lemaître de Boursier.com. L'interview écho dans 20 minutes. Doctolib a permis à 3,8 millions de Français de prendre rendez-vous en ligne depuis le début de la vaccination. Pour en parler, Emmanuel Duteil reçoit ce soir le fondateur de Doctolib, Stanislas Niox-Château. Enfin, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'était redouté, c'est désormais acté. Après la Côte d'Azur, Dunkerque et son agglomération vont donc être confinés le week-end, annonce tout à l'heure d'Olivier Véran qui s'est rendu dans la ville du Nord pour échanger avec les élus locaux. Ces derniers espéraient un sursis, ils ne l'auront pas. Le ministre de la Santé a jugé que la situation mérite un gros tour de vis, Lionel Gougelot.
Eh bien oui, parce qu'il y a d'abord ce taux d'incidence de 900 cas pour 100 000 habitants, un variant anglais qui représente 70% des contaminations et donc une véritable flambée de l'épidémie contre laquelle, comme à Nice, il fallait frapper fort selon Olivier Véran.
Quand vous avez 30 malades atteints du Covid qui arrivent chaque jour aux urgences, lorsque vous avez un taux de circulation du virus qui est tel que celui que nous connaissons ici en ce moment, la chance pour le territoire, c'est d'agir. Cela nécessitera encore plus d'efforts, encore plus de courage et de patience, et ici les habitants n'en manquent pas.
Alors ce confinement de week-end entrera en vigueur dès vendredi 18h, déplacement limité, fermeture de commerce non essentiel, click and collect dans les centres commerciaux. Les élus de l'agglomération prennent acte, mais on sent un regret dans la bouche de Patrice Vergrit, le maire de Dunkerque, que les alertes qu'il avait lancées il y a deux semaines n'aient pas été entendues plus tôt.
Même si on avait demandé effectivement un sursis supplémentaire, peut-être que si on avait réussi à partir plus tôt cette campagne de prévention, elle aurait pu être active aujourd'hui. C'est ainsi, le passé c'est le passé, maintenant ce qui compte c'est l'avenir, c'est la santé des Dunkerquoises et des Dunkerquois. Et donc je soutiendrai à fond les mesures prononcées ici même.
La bonne nouvelle, c'est une dotation supplémentaire de 16 700 vaccins pour les centres de vaccination, car selon les médecins en ville, plus que toute autre mesure, c'est bien la vaccination qui permettra de stopper la vague.
Lionel Gougelot à Dunkerque pour Europe 1. Dunkerque où Olivier Véran est revenu sur le rebond de l'épidémie dans l'ensemble du pays. Nous avons effacé en quelques jours les deux semaines de baisse consécutive que nous avions eues, a déclaré le ministre de la Santé. Et pour cause, 31 500 nouvelles contaminations ont été recensées ces dernières 24 heures, du jamais vu depuis la mi-novembre dernier. On comprend donc mieux l'inquiétude palpable ce midi à l'issue du Conseil de défense sanitaire. Inquiétude notamment au sujet d'une dizaine de départements, Jean-Rémy Baudot.
Ah oui, des zones plus ou moins larges où les autorités s'inquiètent du taux d'incidence, des niveaux d'hospitalisation. Au-delà de la seule question de Dunkerque, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a listé.
Il y a la région Hauts-de-France, la région Île-de-France, la région Grand Est et la région PACA.
Voilà, dans ces régions, le gouvernement travaille à des réponses ciblées, locales et efficaces, dit-il. Voilà la nouvelle méthode. Des confinements locaux, Nice et Dunkerque comme étalon. On se prépare à faire basculer d'autres départements, confie néanmoins un important conseiller. Au sommet de l'État, on veut jouer à fond la carte du local, sans que pour l'instant on soit d'ailleurs vraiment sûr que le confinement week-end est la solution efficace. Mais il faut tout faire pour éviter un confinement.
Si nous considérions qu'il fallait aujourd'hui un confinement, nous aurions décidé d'un confinement. Tous nos efforts doivent se poursuivre pour éviter d'avoir à décider d'un nouveau confinement national, sans évidemment certitude que nous y parviendrons.
Éviter un confinement national et total. Pour l'heure, en coulisses, on comprend que l'exécutif veut en fait surtout gagner du temps, laisser aux Français aussi la possibilité de profiter un peu de leurs vacances. On est dans un moment de vérité, me confie un ministre. La seule certitude, malgré les demandes de certains élus, notamment en Bretagne, c'est que le ton a changé et qu'il est désormais beaucoup plus grave et que l'heure n'est pas au relâchement.
Merci Jean-Rémy Baudot. Et ce ton beaucoup plus grave, nous l'entendrons demain soir dans la voix du Premier ministre. Jean Castex tiendra une conférence de presse que nous suivrons bien évidemment sur Europe 1. En attendant, la campagne vaccinale s'apprête à entrer dans une nouvelle phase. Avec le renfort des médecins généralistes, ils pourront, à partir de demain, vacciner leurs patients de 50 à 64 ans atteints de comorbidité. Ce sera avec le sérum AstraZeneca. Un peu plus de la moitié des praticiens ont réservé des doses et programmé des rendez-vous. C'est le cas de Pierre Trileschi, ce généraliste de Strasbourg, et est prêt à dégainer ses seringues.
Alors pour moi, première injection demain après-midi, c'est mes collègues qui commencent demain matin. On s'est organisé un flacon par médecin, donc nous sommes quatre flacons, 40 doses. On a listé les patients à qui on propose la vaccination. J'ai compté combien j'avais de patients éligibles. J'ai déjà 140 personnes sur ma patientèle perso. Des personnes de entre 50 et 64 ans qui ont des comorbidités, il y en a beaucoup. Et ce qui m'a surpris, c'est que certains patients ont dit « c'est quel vaccin ?» Quand ils ont appris que c'était du vaccin AstraZeneca, ils m'ont dit « oh, vous croyez que c'est sûr, c'est bien, j'ai entendu dire qu'il y a des grosses réactions. » Et donc certains ont refusé. Et puis certains qui me disent « oui, ils ont pris rendez-vous, j'attends demain pour les voir s'ils sont là. J'ai des gens en réserve au cas où ils ne soient pas là, parce que j'ai toujours cette crainte de préparer des doses et de ne pas pouvoir les utiliser. »
Un docteur strasbourgeois joint pour Europe 1 par Arthur Mbaché. Et ce vaccin AstraZeneca connaît à nouveau quelques retards de livraison. La France va recevoir ce mois-ci 800 000 doses en moins, mais pas de panique, assure le ministère de la Santé. Il y aura un rattrapage en mars. Par ailleurs, le vaccin Janssen, qui était espéré en avril, n'arrivera qu'en mai. Pendant ce temps-là, en Hongrie, on injecte depuis aujourd'hui le vaccin chinois Sinopharm. C'est une première en Europe. Et pour cause, Budapest est la seule capitale de l'Union européenne à s'être affranchie de la politique vaccinale commune. Le Premier ministre Viktor Orban avait déjà créé la polémique en passant commande à la Russie de son vaccin Sputnik V.
Europe Soir, Julien Pierce.
Les enquêtes avancent dans l'Essonne après les deux rixes mortelles entre bandes rivales. Deux adolescents de 14 ans tués à coups de couteau, deux victimes en moins de 24 heures. L'une à Boussy-Saint-Antoine hier soir et une autre, une collégienne, lundi à Saint-Chéron. Et dans cette affaire, Gladys Laffitte, six adolescents devraient être mis en examen dans les prochaines heures.
Oui, six mineurs originaires de Dourdan présentés à un juge d'instruction. Le parquet a demandé à ce que l'auteur du coup mortel, un jeune homme de 16 ans, soit placé en détention provisoire. Il a avoué en garde à vue. Il est déjà connu de la justice pour deux infractions, mais sans lien avec des faits de violence. Cinq autres jeunes de 14 et 15 ans sont aussi mis en cause pour violence aggravée. La procureure de la République souhaite cette fois qu'ils soient placés sous contrôle judiciaire, avec notamment l'interdiction de paraître en Île-de-France.
Et en ce qui concerne la bagarre de Boussy-Saint-Antoine, est-ce que l'on en sait plus sur le scénario, Gladys?
Ah oui, ça s'est passé sur un terrain de pétanque. Deux bandes rivales de 30 à 40 jeunes avaient décidé de s'affronter, l'une de Quincy-sous-Sénart, l'autre d'Épinay-sous-Sénart. Il était prévu que les plus âgés de 17 ans laissent les plus petits de 13 et 14 ans se battre sous leur surveillance. L'un de la bande d'Épinay-sous-Sénart de 15 ans est allé au contact, s'est retrouvé encerclé et a mis des coups de couteau. Il s'est présenté de lui-même au commissariat hier soir. Six autres jeunes mineurs de 15 à 17 ans sont toujours en garde à vue ce soir. Ils ont été interpellés juste après la rixe par la BAC. Tous étaient tachés de sang et deux d'entre eux étaient connus des autorités pour port d'armes.
Merci Gladys Laffitte. Et notez qu'à ce sujet, Marlène Schiappa sera demain matin l'invitée de la matinale d'Europe 1. La ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur répondra à partir de 8h15 aux questions de Mathieu Béliard. À Marseille, c'était jour de procès pour 14 supporters de l'OM accusés d'avoir le mois dernier mis à sac la Commanderie, le centre d'entraînement du club. Et 12 d'entre eux viennent d'être condamnés, Stéphane Frangy.
Oui, avec une seule peine de 3 mois de prison ferme sans mandat de dépôt, les autres accusés écopent d'une peine de 6 mois avec sursis. Les deux derniers prévenus sont relaxés. Maître Ludovic Parail, l'avocat de l'un d'eux.
Évidemment, cette relax, et en plus relax total, est une bonne surprise. Ce qu'il en reste, c'est qu'il a fait une semaine de détention à Luynes, et qu'il en restera, c'est évident, marqué à vie. Pour quelqu'un qui n'avait absolument pas ce profil, mais même si l'intrusion est violente, la question qui se pose est de savoir si, dans l'émotion, on n'est pas allé un peu vite pour juger rapidement un dossier qui était manifestement complexe et dans lequel il fallait faire la part des choses. Il y a un mois, jour pour jour, on voulait embastiller tout le monde, les 14.
Voilà, et au niveau des dommages et intérêts pour les parties civiles, chaque accusé devra verser 800 euros pour les policiers blessés, 100 euros pour la Ligue de football professionnelle en raison de l'annulation du match OM-Rennes consécutive à ces incidents. Quant aux 140 000 euros réclamés par l'Olympique de Marseille, le tribunal renvoie sa décision au 25 juin.
Stéphane Frangy, correspondant d'Europe 1 à Marseille. C'est une saisie record en Europe. 23 tonnes de cocaïne ont été découvertes dans des conteneurs dans les ports de Hambourg et Anvers. Le montant total de ces saisies atteindrait à la revente plusieurs milliards d'euros selon les douanes allemandes. Et des milliards d'euros, voilà ce qui manque sur les comptes de la SNCF. La compagnie en a perdu 3 l'année passée. 3 milliards de pertes nettes, c'est du jamais vu. Conséquence de la pandémie qui a provoqué un effondrement du trafic ferroviaire. Un motif d'espoir tout de même, Élise Dangean, ça aurait pu être bien pire.
Oui, clairement, le groupe a limité la casse et il s'en félicite. Il peut dire merci à la diversification de ses activités. Car si le chiffre d'affaires de SNCF Voyageurs a fortement reculé de 28%, tiré vers le bas par des TGV qui ont perdu en moyenne la moitié de leur fréquentation habituelle, le groupe voit sa filiale logistique Géodis faire plus 4,5% de chiffre d'affaires. Il y a donc un phénomène de compensation, mais ça ne fait pas tout. Jean-Pierre Farandou, le patron de la SNCF, le dit lui-même.
Alors on a fait ce qu'il faut pour, on a fait très attention, on a eu un plan d'économie assez massif, hein, de 2,5 milliards d'euros d'économie, qui fait que ça a compensé l'effet du Covid à peu près pour moitié. C'est encourageant, ça veut dire surtout qu'on est capable de réagir, on est prêt à rebondir. Quand la crise sera terminée, je suis sûr qu'on pourra repartir à fond pour retrouver tous les clients que nous avons perdus à cause de la crise.
Le groupe table désormais sur une reprise d'activité progressive à partir de l'automne avec un plein effet en 2022. Et pour inciter ses clients à revenir dans ses trains, il va notamment proposer à l'été une refonte tarifaire avec des prix plus bas et plus lisibles.
Élise Dangean, et puis toujours au chapitre découvert abyssal, Accor annonce lui aussi des pertes records, près de 2 milliards d'euros. Le groupe hôtelier qui possède les marques Ibis, Sofitel ou encore Mercure a vu son activité s'effondrer de 60% en 2020. Et dans ce contexte, l'UNEDIC s'inquiète de la fin à venir des aides d'État. L'organisme qui gère le régime d'assurance chômage prévoit un trou de 10 milliards d'euros cette année, ainsi que la destruction de 230 000 emplois. À l'étranger, en Allemagne, le verdict d'un procès historique, le premier pour les horreurs perpétrées par le régime syrien. La haute cour de Koblenz a condamné un ex-agent du régime de Bachar el-Assad à 4 ans et demi de prison pour complicité de crimes contre l'humanité. Mais au-delà de ce cas particulier, Hélène Kohl, c'est bien le dictateur syrien qui était dans toutes les têtes, hein.
Oui, et le nom de Bachar el-Assad a été cité d'ailleurs 5 fois dans l'énoncé du verdict ce matin à Koblenz. La présidente de la Cour s'est autorisée un commentaire personnel en assurant aux parties civiles qu'elle n'oubliera jamais ce qu'elle a appris lors de ce procès. Très concrètement, c'était le procès de la répression de quelques manifestations en 2011. L'accusé, qui avait un grade très subalterne, était jugé pour avoir participé à l'arrestation et au transfert d'opposants vers un centre de détention où il savait qu'ils allaient être torturés. Mais en réalité, c'est cette question de la torture qui a été au cœur de ce procès historique, au cours duquel on a montré et analysé pour la première fois les photos du dossier César. Il s'agit d'un fichier avec des milliers de clichés de détenus syriens morts portant sur leur corps les traces d'exactions terribles. Et ces photos sont désormais officiellement considérées comme des preuves matérielles contre le régime de Damas. L'accusé va faire appel, selon ses avocats, mais c'est un premier pas, disent les Syriens en exil. Ils espèrent que les procès de ce type vont se multiplier grâce au principe de compétence universelle qui permet à la justice de nombreux pays de poursuivre les auteurs de crimes contre l'humanité, quelle que soit leur nationalité et quel que soit l'endroit où le crime a été commis.
Merci beaucoup Hélène Kohl, correspondante d'Europe 1 à Berlin. Jour historique également en Espagne, la toute dernière statue du dictateur Franco a été déboulonnée 45 ans après la mort du général qui a dirigé le pays d'une main de fer de 1939 à 1975. Cette statue se trouvait dans l'enclave de Melilla, sur la côte nord du Maroc. J'aimerais maintenant vous emmener dans le Paris du 19e siècle. Nous sommes en 1887 sur la butte de Montmartre, à l'horizon, pas encore de Sacré-Cœur, mais des champs et des petits moulins, le tout croqué par un certain Van Gogh. Scène de rue à Montmartre, c'est le nom de cette toile signée du peintre hollandais, tableau qui va pour la première fois être mise en vente, ce sera le 25 mars prochain chez Sotheby's à Paris. Et fait très rare, Diane Chenouda, cette œuvre a passé plus d'un siècle au sein d'une même famille.
Oui, absolument, une famille de collectionneurs à Paris. C'est le grand-père qui avait acheté ce Van Gogh dans les années 20 et la toile n'a pas quitté son bureau depuis. Ses héritiers vendent donc aujourd'hui ce tableau de la série de Montmartre, une période très recherchée par les amateurs de Van Gogh, comme l'explique Aurélie Van de Voorde. Elle dirige le département d'art impressionniste et moderne chez Sotheby's France.
C'est une série de tableaux que Van Gogh a peint lorsqu'il s'installe à Paris, entre 86 et 87. Et il s'installe avec son frère Théo sur la butte Montmartre, rue Le Pic. Et là, il va notamment faire plusieurs tableaux qui représentent les moulins de Montmartre et qui lui évoquent évidemment les moulins néerlandais de son enfance. Ce tableau est rare parce qu'aujourd'hui, quasiment tous les tableaux qui représentent le moulin de la Galette sont dans des grands musées internationaux et il est très très rare d'en trouver encore en main privée. C'est un tableau qui est depuis près de 100 ans dans la même famille française et qui n'a donc jamais exposé le tableau. Donc depuis un siècle, personne n'a vu ce tableau.
Et on reconnaît la patte de Van Gogh avec ses couleurs, un tableau déjà très lumineux. La toile, estimée entre 5 et 8 millions d'euros, sera pour la première fois exposée au public à Paris à la mi-mars, après Amsterdam et Hong Kong.
Merci Diane Chenouda. Un mot de rugby pour terminer. La ministre des Sports veut faire la lumière sur ce qui s'est passé au sein du 15 de France, comprendre comment 11 joueurs et 4 membres du staff ont pu être infectés par le Covid malgré le strict protocole sanitaire. Roxana Maracineanu demande donc à la fédération de diligenter une enquête alors que le match France-Écosse dimanche a été maintenu par le comité du tournoi des 6 nations. On passe à la météo. Anissa Haddadi, le temps demain sera plus nuageux au nord de la Loire.
Oui, en particulier dans le nord-ouest, pour être très précis, Julien, avec une petite perturbation très légère, très peu active, une perturbation qui arrive de l'Atlantique. Et donc ce jeudi va commencer avec sur la Bretagne et le Cotentin un ciel beaucoup plus couvert avec des petites pluies, des pluies très fines. Ailleurs, le ciel reste lumineux avec sur le golfe du Lion, du Languedoc à la Provence, des nuages bas, une sorte de brume qui viendra de temps en temps voiler le soleil. Et puis au fil des heures, le soleil va finir par s'imposer et l'emporter, en particulier sur la moitié est où là il va faire très beau. De l'Alsace jusqu'à la Côte d'Azur, on a vraiment encore une journée printanière. Le ciel reste tout de même couvert dans le sud, en particulier sur les Cévennes, avec toujours le vent d'autan sensible demain jusqu'à 70 km/h en rafale. Et puis sur le quart nord-ouest du pays, sur les pays de la Loire jusqu'aux Hauts-de-France, en passant par la Normandie et le Cotentin, là le ciel va avoir du mal à se dégager. Les nuages persistent, le ciel reste gris et l'après-midi sera rythmé par des petites averses. Les températures, elles sont en légère baisse demain matin. Nous aurons 2 à 10 degrés. 2 pour Strasbourg, 10 à Paris, c'est la maximale au lever du jour. Et puis dans l'après-midi, il va faire encore doux. 12 à Brest, 14 à Dunkerque et Montpellier, 16 degrés pour Marseille et Ajaccio, 17 à Nice et Paris, 18 pour Nancy et Biarritz, 19 à Lyon. Et la maximale de 20 degrés est prévue pour Gap demain.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Europe 1. Restez avec nous dans un instant, toutes les infos de la bourse top à Wall Street avec Claire Lemaître de boursier.com, suivi de l'interview écho. Doctolib a permis à 3,8 millions de Français de prendre rendez-vous en ligne depuis le début de la campagne vaccinale. Pour en parler, Emmanuel Duteil reçoit dans quelques minutes le fondateur de Doctolib. Pardon. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h19 sur Europe 1, bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre, c'est l'heure de Top à Wall Street.
Retrouvez Top à Wall Street avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
Toutes les infos de la bourse avec Claire Lemaître de boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Julien.
Wall Street retrouve le moral ce soir. La Fed a réussi à rassurer les marchés toujours très inquiets de l'inflation.
Et ça va tellement mieux que le Dow Jones s'offre un record à 31 961 points en hausse de 1,35%. Le Nasdaq lui reprend 1%, 13 597 points. Après le Sénat hier, Jérôme Powell s'est exprimé aujourd'hui devant la Chambre des représentants. Exercice réussi donc pour le patron de la Fed. qui a encore calmé les craintes de flambée inflationniste des marchés. Alors, les valeurs technologiques tentent de se reprendre. Alphabet gagne 1,2%, Tesla plus 6%, mais ça reste compliqué pour Apple en baisse de 0,4% ou pour Amazon moins 1%. Et puis, les espoirs de reprise économique dopent les valeurs les plus chahutées par la crise. Boeing grimpe de 8%, forte hausse également pour les compagnies aériennes. On a United Airlines, par exemple, qui monte de 8,6%. Le pétrole suit le mouvement en hausse de 3%, $63.19 le baril WTI et l'euro gagne 0,1%, $1,2160.
Le CAC 40 a terminé en légère hausse, tout près de la barre psychologique des 5800 points.
Oui, le CAC 40 gagne un petit 0,31%, 5797 points en clôture. La star du jour à Paris, c'est Fnac Darty. Après ses résultats, le distributeur a présenté sa nouvelle feuille de route à l'horizon 2025. L'objectif, c'est de réaliser 25% de ses ventes sur le web. Le titre Fnac Darty grimpe de 9,6%. Ça monte aussi pour Accor. Vous en parliez dans le journal. Le groupe hôtelier affiche une très lourde perte nette à près de 2 milliards d'euros en 2020. Mais il voit des signes de reprise en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique du Sud. Le titre Accor gagne 2,7%.
Du vert donc pour Accor. Et le reste du secteur des loisirs et des voyages poursuit aussi sa remontée.
Avec encore des gains importants ce soir pour Airbus, plus 5,3% pour l'avionneur et pour Air France KLM, plus 5,3%. Là aussi, grâce aux perspectives de reprise économique. Du côté des baisses, on retient Worldline, le spécialiste des solutions de paiement, recule de 0,8% après ses résultats financiers. Ailleurs, en Europe, c'est du vert pour les marchés. Londres monte de 0,5%, Francfort plus 0,8%, Milan plus 0,7%, Madrid plus 0,2%, Amsterdam plus 0,1% et à Paris, le CAC 40 gagne 0,3%, 5 797 points.
Merci beaucoup Claire Lemaître de Boursier.com et à demain Claire. 22h22 sur Europe 1, on passe à l'interview éco. Emmanuel Duteil, c'est à vous.
Bonsoir Stanislas Nyokchateau.
Bonsoir.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le fondateur de Doctolib. Je ne suis pas sûr qu'il faille encore présenter Doctolib, hein, tellement que vous connaissez une croissance folle depuis notamment le début de cette crise sanitaire. Alors si on a voulu être en ligne avec vous ce soir, c'est parce que demain débute la campagne de vaccination chez les médecins généralistes. Alors attention, hein, pas pour tout le monde, c'est pour les 50-64 ans et encore pas pour tous ceux qui ont cet âge-là, c'est pour ceux qui ont ce qu'on appelle des signes de comorbidité. En quoi vous allez pouvoir aider les médecins généralistes à débuter et à amplifier cette campagne de vaccination?
Alors écoutez, nous on a mis en place un logiciel de gestion des rendez-vous et des patients pour les centres de vaccination français depuis le début du mois de janvier et on va mettre en place le même logiciel pour les médecins généralistes français qui vont pouvoir, à partir de demain, prendre des rendez-vous et gérer la logistique de vaccination pour leurs patients. Pourquoi ? Parce que les médecins doivent prendre deux rendez-vous avec un intervalle de 9 à 12 semaines, ils doivent faire de la surveillance post-vaccinale, ils doivent dédier des plages horaires spécifiques pour prendre en charge les patients. Et donc, ils ont toute une organisation à mettre en place. On les aide à mettre en place cette organisation. Ils contactent proactivement les 10 patients la première semaine qui vont vacciner, puis 20 à 30 patients par semaine. Et ils ouvriront en ligne quand ils le souhaitent, quand ils auront probablement plus de doses. Donc à partir de la fin du mois de mars, vous pourrez aller sur Doctolib. Si vous êtes une population éligible, vous pourrez prendre un rendez-vous sur Internet. Avant ça, votre médecin généraliste vous contactera proactivement pour vous faire vacciner.
Là, vous les aidez dans cette logistique, si on peut utiliser ce mot-là, pour gérer leur rendez-vous dans les semaines à venir. Si on retourne du côté des centres, hein, puisque là, vous avez été l'une des plateformes sélectionnées par le gouvernement pour obtenir des réservations et pour pouvoir avoir ces rendez-vous pour aller se faire vacciner dans ces centres, on en est où, de façon très concrète, du nombre de rendez-vous depuis que ça a été ouvert ?
Alors, 3,8 millions rendez-vous ont été pris par Doctolib depuis le 14 janvier. À peu près 150 000 rendez-vous sont pris chaque jour sur les 7 derniers jours dans les 1500 centres équipés de Doctolib. La disponibilité reste faible pour une raison simple, qui est qu'au moment de l'ouverture le 14 janvier, il y avait 6 fois plus de patients éligibles que de doses. Et donc les centres sont mobilisés, les collectivités territoriales sont mobilisées, Doctolib marche, il n'y avait juste pas suffisamment de doses. De semaine en semaine, les centres ouvrent de plus en plus de rendez-vous. Les villes communiquent sur les rendez-vous qui sont ouverts. Et donc, si vous ne vous êtes pas encore fait vacciner et que vous avez plus de 75 ans, bah vous allez pouvoir, dans les semaines et mois à venir, en fonction de la disponibilité des doses, pouvoir prendre un rendez-vous sur Doctolib pour vous faire vacciner.
Ce que vous nous dites, c'est que c'est en train progressivement de se détendre. Quelles sont quand même les zones où c'est encore très compliqué? Il faut attendre des semaines, voire ne pas avoir de rendez-vous disponible.
Non, dans toutes les zones de France, dès qu'un rendez-vous est disponible, il est pris dans les minutes qui suivent. Et donc, est-ce qu'il y a de la disponibilité dans certains centres et zones de France? Globalement, non. Chaque jour, chaque centre reçoit des nouvelles doses, ou chaque semaine, chaque centre reçoit des nouvelles doses et ouvre des rendez-vous pour le grand public, et les villes, les régions communiquent sur ces rendez-vous chaque semaine. Donc, bien sûr, comme l'a dit le ministre de la Santé, il faut prendre son mal en patience. Ce n'est ni de la faute des centres, ni de notre faute, mais les approvisionnements de vaccins Pfizer et Moderna arrivent dans les semaines et mois à venir.
Donc on continue à avoir des gens qui font des centaines de kilomètres parce que c'est là où ils trouvent un rendez-vous?
Non, alors l'immense majorité des gens, ils vont en proximité de chez eux. 150 000 rendez-vous pris chaque jour, 3,8 millions de rendez-vous pris depuis le début de la campagne de vaccination. Donc il faut quand même souligner, oui, il y a des problèmes de disponibilité, mais les centres sont mobilisés, ça marche, il y a eu des millions de rendez-vous. Il y a des millions de Français qui sont déjà fait vacciner.
Est-ce que ça vous rapporte beaucoup d'argent, ce contrat avec l'État?
Absolument pas. On en perd même parce qu'il y a une mobilisation de 200 personnes chez nous. On a développé un logiciel de gestion pour la campagne de vaccination depuis le mois de décembre qu'on a mis en Allemagne et en France. Et donc, on a largement plus de coûts que de gains. On le fait pourquoi? Parce qu'on est citoyen français comme vous, comme moi. Et donc, on a envie de servir notre pays et que la campagne de vaccination se passe bien.
Et puis disons-le quand même très franchement, Stanislas Gnoc-Château, c'est-à-dire que les clients qui viennent, là, qui ont plus de 75 ans, c'est des gens qui n'utilisaient pas ou peu Doctolib. Ils découvrent grâce à vous la facilité que vous proposez pour obtenir un rendez-vous, donc vous vous dites que la prochaine fois, c'est par vous qui passeront pour aller chez tel ou tel spécialiste, par exemple.
Alors, sincèrement, non, on avait déjà eu l'occasion d'en discuter ensemble. On a 45 millions de citoyens français qui utilisent Doctolib au quotidien, donc je pense qu'on n'avait pas besoin de la campagne de vaccination pour prouver que prendre un rendez-vous en ligne, avoir un accès aux soins plus rapide et simple, c'est quelque chose d'important et que la santé, c'est un bien commun. Et pourtant, les technologies dans la santé, elles ont une vingtaine d'années de retard. Et donc, faciliter l'accès aux soins par la technologie, on pense que c'est très important.
On a appris ce matin que les coordonnées de 500 000 personnes sont dans la nature avec parfois des informations médicales sensibles. Vous avez eu, vous aussi, hein, une attaque, c'était en juillet de l'année dernière. Est-ce que c'est bien sécurisé aujourd'hui ce qui se trouve sur Doctolib? Alors, vous n'allez pas me dire non, mais est-ce que vous avez renforcé suffisamment votre sécurité?
C'est un point qui est très important. La sécurité 100%, ça n'existe pas, ça n'existera jamais. Par contre, on a l'un des systèmes les plus sécurisés en Europe. On a encrypté nos données, on a un hébergeur agréé de données de santé, on a des équipes très importantes qui travaillent sur la sécurité des données. C'est notre priorité numéro un. Et on continuera de faire que ce soit notre priorité numéro un. Il y a un deuxième point qui est très important.
Mais est-ce qu'on dit qu'il y a beaucoup de cyberattaques aujourd'hui dans le domaine de la santé? On l'a vu dans plusieurs hôpitaux. Vous le voyez qu'aujourd'hui, vous êtes de plus en plus attaqué aussi?
On en a plein et on en contrecarre plein. La sécurité 100%, ça n'existe pas. Par contre, je peux vous assurer que depuis 2013, année de création de Doctolib, c'est notre priorité numéro un. Et on va même plus loin. En fait, ce n'est pas qu'une question de sécurité, c'est aussi une question d'usage des données. Chez Doctolib, on pense que les patients sont les propriétaires de leurs données, ils en font ce qu'ils souhaitent, et elles sont utilisées que pour la prise de rendez-vous, la téléconsultation et la gestion des cabinets. C'est un élément très important, c'est de dire le respect de la vie privée, c'est un droit fondamental. Et donc il faut que toutes les entreprises dans la santé, et d'ailleurs plus généralement les entreprises, on fait une priorité numéro 1.
Eh bien, merci beaucoup Stanislas Gnoc-Château. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Doctolib. Nous, on se retrouve demain, 22h20.
Merci beaucoup Emmanuel Dutheil. On vous retrouve également demain à 13h dans La France Bouge avec Elisabeth Assayag pour une émission spéciale soutien aux entreprises en difficulté avec un invité exceptionnel, Alain Griset, le ministre délégué en charge des PME. 22h29 sur Europe 1 et voici donc ce que vous pourrez lire demain à la une de vos journaux. Covid-19, un joug sans fin, titre Libération avec pour illustration une photo d'Olivier Véran annonçant cet après-midi un confinement le week-end à Dunkerque. Avec la montée en puissance des variants, faut-il craindre une troisième vague, interroge Le Quotidien. La réponse est oui, car si on met de côté Dunkerque et Nice, la situation est très inquiétante également dans d'autres territoires. Provence-Alpes-Côte d'Azur, Île-de-France, Grand Est, Hauts-de-France, autant de régions où les taux d'incidence sont bien au-dessus
au-dessus des seuils d'alerte. Et le problème, c'est qu'avec les variants, tout peut basculer d'une semaine à l'autre. Quand ça se met à déconner, ça déconne très vite, s'alarme le chef des urgences du CHU de Lille, où 88% des lits de réanimation sont d'ores et déjà occupés. Le Figaro, pour sa part, consacre sa une à ces Français oubliés de la crise sanitaire dont la vie est à l'arrêt depuis bientôt un an. C'est une jeune femme qui, faute de trouver une alternance et de pouvoir payer son école, a dû renoncer à faire des études. C'est un chanteur lyrique qui a quitté l'Opéra de Vienne en Autriche pour devenir livreur de vélo à bois. C'est un dompteur qui doit vendre son camion et son groupe électrogène pour nourrir ses bêtes. On leur a donné des dates, des perspectives et puis de préconisations du conseil scientifique en variants inquiétants. On les a relégués une fois encore au deuxième plan, écrit Vincent Trémollet de Villers. On termine avec le Figaro Echo, cette fois qui nous apprend que les Philippines, très touchées par la pandémie, proposent d'échanger des infirmières contre des vaccins. Proposition faite notamment à la Grande-Bretagne et à l'Allemagne. Londres a répondu non merci. Quant à l'Allemagne, elle n'a pas encore réagi, ce qui soulage le syndicat des infirmières philippines qui se dit dégoûté que des professionnels de santé puissent être traités par le gouvernement comme des marchandises.
C'était les unes du lendemain avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
Bonsoir Olivier Delacroix.
Bonsoir Julien.
Comment allez-vous?
Écoutez, ma foi, tout va bien.
39-21 pour vous appeler et témoigner dans la libre antenne qui débute donc maintenant et ce jusqu'à 1h du matin.
Exactement. Et nous, on se retrouve pour le flash d'ici une petite demi-heure, Julien. À tout de suite.
À tout de suite.